n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
L'actualité politique en France décryptée comme tous les dimanches soirs sur RFI, c'est maintenant et c'est avec vous, Bruno Cotterêts. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, que l'on appelle encore CEVIPOF. Alors, une quinzaine de députés En Marche écrivent aujourd'hui au Premier ministre, lettre publiée dans le JDD. Ils demandent au gouvernement d'en faire plus pour réduire les inégalités et ils font 13 propositions, parmi lesquelles l'ouverture de 40 000 places de crèches, la pondération des financements de collèges en fonction de la mixité sociale, la refonte du barème d'attribution des bourses d'étudiantes ou encore la mise en place d'un revenu universel d'activité. Alors, Emmanuel Macron avait promis en 2017 que sa politique serait et de droite et de gauche, mais après plus de 3 ans de présidence, cet appel serait-il une preuve que la majorité penche plutôt vers la droite ?
Ben oui, parce que s'il faut rééquilibrer à gauche en fin de mandat présidentiel, ça veut dire qu'évidemment, l'ensemble du mandat a plutôt été fait au centre-droit qu'au centre-gauche. On sait que toutes les enquêtes d'opinion ont montré que lorsqu'on demande aux Français de classer Emmanuel Macron, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite, où est-ce qu'il est, les Français le classent plutôt centre-droit Emmanuel Macron. Et on a vu par ailleurs que ce sont plutôt des électeurs du centre-droit, anciens électeurs de François Fillon, ancien sympathisant des Républicains, qui accordait davantage de soutien à Emmanuel Macron que les anciens électeurs du Parti Socialiste.
Alors, je parlais de la mise en place d'un revenu universel d'activité, c'est une des propositions faites par ces députés de la majorité. Soutenir les plus fragiles, surtout dans la crise économique provoquée par le Covid, c'est la question de la jeunesse, à propos de laquelle le chef des files des écologistes Yannick Jadot s'est exprimé tout à l'heure.
Vous avez plein de jeunes aujourd'hui qui n'ont rien, évidemment. Pourquoi est-ce que le RSA concerne tout le monde, sauf les jeunes ? Je veux dire, on a des jeunes qui, aujourd'hui, sous détresse psychologique, explosion des envies de suicide, d'automutilation, le dérèglement climatique qui menace. Et maintenant, on va leur dire, en plus, c'est vous qui allez payer la dette Covid. Tout ça a créé une crise de l'avenir pour notre jeunesse. Il faut en prendre soin.
Propos tenus sur Europe 1. De nombreux jeunes travaillent, quand ils ont la chance de trouver un emploi, travaillent de manière précaire pour nombre d'entre eux. Contre cela, il faut agir, lance Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste sur France 3.
On ne peut pas continuer à laisser penser que des livreurs qui sont entièrement dépendants d'une plateforme sont en fait des indépendants. Que chacun comprenne ce à quoi ils n'ont pas droit aujourd'hui. Assurance maladie, assurance chômage.
Donc vous proposez quoi ?
Qu'on les considère comme des salariés de droit commun et qu'on puisse sortir de cette forme d'économie ubérisée qui est en train de fragiliser partout des femmes, des hommes qui n'ont pas d'autre possibilité que d'avoir ces emplois-là.
Pour venir en aide à tous et à tout, le gouvernement a annoncé un plan de relance de 100 milliards d'euros afin de reconstruire l'appareil productif en période de guerre sur le front du Covid. François Bayrou, lui, veut y adjoindre un plan Marshall de reconquête économique. Le président du Modem et commissaire au plan était au grand jury RTL tout à l'heure.
Nous avons la chance historique, sans précédent, aucune génération avant nous n'a eu cette chance de pouvoir emprunter pour reconstruire la force et la capacité et la puissance de notre pays à 0%. Il y a en effet des gens qui disent « oui, mais il ne faudra pas le rembourser ». À mon sens, c'est une énorme faute de penser comme ça. À l'instant même où vous dites à quelqu'un qui vous a prêté « je ne vous rembourserai pas », vous ne pouvez plus jamais emprunter un euro.
Bruno Cotterêts, réduire les inégalités se pose avec encore plus d'acuité en cette fin de mandat, mais surtout en cette période Covid.
Oui, bien évidemment, cette période Covid, elle a creusé des inégalités. Elle a évidemment révélé que tout le monde ne fonctionnait pas de la même manière en France pendant cette crise. On avait vu dès le premier confinement, d'ailleurs, que tout le monde n'était pas égalité. Il y avait ceux qui avaient dû continuer à travailler, ceux qui pouvaient télétravailler, ceux qui ne pouvaient pas télétravailler. Puis sont apparus progressivement des trous absolument béants. Effectivement, on a parlé beaucoup de cette jeunesse. La jeunesse, c'est pas vraiment la jeunesse étudiante, c'est aussi la jeunesse qui n'a pas forcément les qualifications pour trouver un boulot facilement. Et donc, on a vu effectivement que cette crise, elle a exacerbé même certaines tensions socio-économiques. Et on n'en a pas encore vu le bout, parce que c'est à l'issue de la crise, lorsque, au fond, la vague se sera retirée et qu'on verra les conséquences socio-économiques en termes d'emploi, que là, évidemment, on va avoir explosé certaines inégalités, et notamment la capacité de certains à rebondir après la crise et l'incapacité, malheureusement, pour d'autres, eh bien, de retrouver le chemin de l'emploi.
Est-ce que cette paupérisation d'une bonne frange de la population française peut relancer le mouvement des Gilets jaunes, à votre avis ?
C'est difficile à dire. Il y a eu effectivement une explosion de colère populaire en France il y a 2 ans, alors qui n'était pas d'ailleurs fortement axée sur la question de la jeunesse, mais ça indiquait quand même qu'il y avait en France un terreau fertile pour un certain nombre de revendications sociales, que le système socio-économique n'arrive plus à bien gérer, que le système politique, auquel le système politique n'arrive plus à offrir de perspectives positives. Donc le terreau, il existe. Je ne crois pas qu'on aura, d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, une nouvelle crise de la même ampleur, parce que tout le monde est trop, au fond, sous l'effet de la crise de la Covid. Mais il y aura sans aucun doute, dans les mois et les 2 ans qui arrivent, il y aura bien sûr des revendications sociales fortes qui vont s'exprimer, car encore une fois, tout le monde n'a pas été mis à égalité devant cette crise.
Alors, ce qui fait parler également dans l'actualité politique française, c'est le texte dit contre les séparatismes, qui vise donc le communautarisme. Il en est question en ce moment à l'Assemblée nationale. La députée La France Insoumise, Clémentine Autain, évoquait ce matin sur France Inter un texte fourre-tout, un texte qui n'apporte pas grand-chose, dit de son côté l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot.
Quand j'entends même les députés La République En Marche, ils doutent de l'efficacité de ce texte, parce qu'ils considèrent que finalement...
Ils le votent.
Mais ce texte n'apporte pas grand-chose. On est sur un sujet que nous savons extrêmement sensible, et vous savez, depuis des mois, j'appelle à ce qu'on se donne tous les moyens pour combattre les ennemis de la République. J'ai pas d'ambiguïté, aucune ambiguïté là-dessus.
Sur la chaîne de télévision France 3, le patron du PS, Olivier Faure, lui, disait tout à l'heure que c'est une loi qui ne règle rien.
Cette loi, elle ne règle rien. Si vous pensez une seule seconde qu'à la fin de cette loi, il n'y aura plus de séparatisme en France, eh bien, j'ai peur que vous soyez très déçus. On ne peut pas, dans notre pays, considérer que le fait de critiquer une religion soit un crime, un délit, parce que, en France, toutes les religions sont critiquables, comme elles sont aussi observables. Pour l'instant, en tout cas, comme disait quelqu'un, le compte n'y est pas.
Et puis, beaucoup de choses sont dites sur bien des aspects du projet de loi du gouvernement. Actuellement, sur les réseaux sociaux, court cette rumeur. Le port du voile dans l'espace public serait sanctionné d'une amende de 1 500 €. Pas du tout, s'insurge Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté sur BFM Télé à la mi-journée.
C'est une fake news, absolument. Je dément formellement le fait qu'il y ait une proposition du gouvernement visant à mettre une amende de 1 500 € ou de quelque montant que ce soit pour le port du foulard dans l'espace public. Il n'est pas question de mettre des amendes aux femmes qui portent le foulard et il n'en sera pas question.
Voilà, c'est dit. Bruno Cotterès du Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Ça fait l'actualité à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça fasse l'actualité des Français, ce projet de loi sur le séparatisme.
Non, la tonalité aujourd'hui des Français, c'est plutôt l'extrême préoccupation pour la situation sanitaire et pour les conséquences en termes d'emploi. Beaucoup craignent de ne pas pouvoir retrouver le petit boulot qui leur permettait de compléter une retraite, de pouvoir tenir pendant le temps de leurs études. C'est ça aujourd'hui les préoccupations de la plupart des familles, de la plupart des Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une préoccupation sur la question de ce que le gouvernement appelait le séparatisme. On n'est pas du tout dans cette tonalité aujourd'hui. L'opinion a été marquée au fer rouge en France par l'assassinat horrible de Samuel Paty, sa décapitation. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose d'autre. Donc, il est à craindre surtout que ce texte ne vienne encore une fois relancer les polémiques sur la question de l'islam, sur la question du voile. Et on a vu cette fake news sur la question du voile et du port du voile qui serait sanctionné de 1 500 € d'amende, ce qui est une fake news. Donc, il est un peu à craindre qu'encore une fois, on revienne en France presque au point de départ sur ces questions, comme si on tournait en rond autour de cette question depuis maintenant plusieurs décennies.
Et puis il y a une bonne nouvelle, un mieux pour la préservation de la planète, puisque les émissions de gaz à effet de serre en France ont reculé de 1,7% en 2019. C'est plus qu'initialement estimé. Annonce faite par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili dans le Journal du Dimanche. Satisfaction il y a de cela quelques minutes d'Emmanuel Macron, qui promet d'encore accélérer la loi climat présentée mercredi dernier en Conseil des ministres. Je propose la réaction de l'écologiste Yannick Jadot au fait que l'État a été condamné par la justice administrative pour carence dans le non-respect des engagements de sa stratégie nationale bas carbone, malgré donc ces chiffres donnés ce soir.
C'est une victoire de la mobilisation citoyenne et c'est un échec parce que ça veut dire que le gouvernement n'agit pas assez. On aura près de 30 jours de canicule par été. La moyenne des dernières décennies, c'était 2, 3, 4 degrés. On aura des températures à 50 degrés, des feux de forêt, des inondations, des vagues submersions. Donc la nécessité d'agir, elle est extraordinairement importante. Il faut agir.
La prise de conscience des écologistes et de l'écologie score aux européennes, surtout aux dernières municipales. Est-ce que cette prise de conscience des Français fait les frais, elle aussi, de la situation du Covid ?
Je distinguerai deux plans. Il y a un plan de long terme où, incontestablement, sur le long terme, il y a une prise de conscience des Français sur les questions climatiques et écologiques beaucoup plus importante. Ça s'est fait sur une très longue distance au cours des 20 ou 30 dernières années. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une véritable prise de conscience. Et puis, il y a le court terme. Le court terme, c'est la crise de la Covid. C'est la crise de la Covid, l'ensemble des préoccupations dont on a parlé. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un peu perdu la dynamique de la sortie de la Convention citoyenne sur le climat. Je ne doute pas que dans la perspective de la présidentielle, ça reviendra sur le devant.
Merci pour ces commentaires et ces éclairages. Bruno Queutrès, invité de Dimanche Politique sur RFI, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Politique de Sciences Po.